D'être avec vous ce matin et merci à l'invitation hein, de ceux qui ont bien voulu m'inviter pour passer ce moment avec vous dans la parole de Dieu, la vérité dans l'amour hein, et avec ce thème christique. Alors voilà, j'ai plaisir à être parmi vous ce matin pour une autre raison, c'est que J'ai fait mes études à Mantes-la-Jolie, voilà, et j'ai sévi dans les rues de Mantes-la-Jolie, autrefois rue Juin, voilà, rue du Maréchal Juin, voilà. Ils n'ont pas détruit depuis, donc ça ne devait pas être trop grave. Non, c'était un grand privilège, une grande joie. Si vous vous posez la question, je voudrais vous y encourager à vous inscrire pour étudier la parole de Dieu, à ouvrir tous les jours la parole de Dieu avec des enseignants consacrés et compétents, et puis aussi à bénéficier du privilège de tous ces livres hein, qui sont un grand trésor. Il y a des gens qui pensent qu'avec tout ce qu'on a maintenant sur Internet et tout ça, ça a beaucoup plus de valeur. Hein. Et tout ce qui sort maintenant, c'est trois fois rien à côté de la richesse de l'enseignement de la parole de Dieu et ce qu'on peut recevoir. Alors ça fait une trentaine d'années, hein, donc voilà, au siècle dernier en tout cas. Hein. Et donc, c'est... Voilà, on peut témoigner grâce à Dieu que le Seigneur est fidèle, et c'est le titre, hein, « Humble et joyeux service, le contrat de travail que Dieu nous demande de signer hein, ». Et donc, oui, c'est vrai, le Seigneur fait avec nous un contrat, il fait avec nous un engagement, il nous demande à nous engager nous-mêmes, et à le servir fidèlement. Alors, grâce à Dieu, c'est un sujet très cohérent qui a été choisi. Et donc, le frère Bernard a déjà cité un passage que je vais citer. Samuel aussi. Hein donc, comme ça, on est dans la suite hein, de la pensée. Ce matin, j'aimerais m'attacher surtout à... on va lire plusieurs passages, évidemment, mais surtout la deuxième épître aux Corinthiens, qui est en quelque sorte un résumé de l'esprit du ministère apostolique. Hein. Et c'est un livre d'apologie, de défense, où l'apôtre Paul défend son ministère et son apostolat parce qu'il était attaqué. Remis en question notamment par les Corinthiens, vous savez, ils trouvaient toujours à redire, hein, c'était certainement des Français, et, Belges, ah pardon, et donc il y a toujours quelque chose à dire, et voilà, mais grâce à Dieu, ils ont, il y a eu réconciliation, hein, et il y a eu vraiment, ils se sont soumis à la parole de Dieu et aux serviteurs de Dieu, et ça a été une grande bénédiction. Alors, juste quelques passages bibliques en introduction. Michée 6, versets 6 à 8, qui a été cité par Bernard tout à l'heure, hein, et donc ce passage qui nous rappelle, dans l'Ancien Testament, hein, c'est sous la loi encore que... Ces paroles ont été dites et que le Seigneur nous rappelle hein, ce qu'il demande de nous. Voilà ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Hein. Et c'est un grand principe de vie. Il m'a été donné, vous savez, quand on sert le Seigneur, on fait toutes sortes de choses. Alors, une des choses que j'ai fait dans les années 80 aussi, c'était la libération des radios. Et donc, pendant 3 ans et demi, je me suis consacré à une radio chrétienne à Montauban, qui est toujours là, vous pouvez l'écouter. D'ailleurs, Samuel a beaucoup parlé à cette radio aussi. Hein, et donc, vous l'avez sur sentinelle.org, vous pouvez toujours l'écouter. Et dans cette radio, j'ai été amené à faire une série qui s'appelle « Les géants de la foi », une série historique où on raconte la vie des hommes de Dieu du passé, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, etc., des hommes de Dieu. Mais ce qui ressort à chaque fois, c'est que aussi grand que soit un homme, eh bien, il est petit devant Dieu et il doit marcher humblement devant son Dieu. Hein. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, si nous l'oublions, ça nous arrive de temps en temps, je le confesse, eh bien le Seigneur sait nous rappeler à l'ordre. Hein. L'apôtre Paul avait un rappel permanent, hein, une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter, pour l'empêcher de s'enorgueillir, et ça nous arrive aussi d'avoir ce genre d'épreuve parfois permanente pour nous rappeler le droit chemin dans le Seigneur. Hein. Alors également un autre passage en 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, et un aspect de notre service qui n'est pas agréable à entendre au premier abord, hein, mais qui fait partie de ce à quoi on est appelé. Alors, je vous lis ce que dans Louis II, hein, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Alors nous allons passer un petit moment dans la prière et ensuite méditer cette parole de la part du Seigneur. Seigneur éternel, quel privilège nous avons de nous approcher de toi ce matin, de ce que tu es le Dieu vivant et vrai, tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Tu as donné ta vie sur la croix, ton sang a coulé, tu as été frappé, battu, humilié, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la victoire sur le péché, pour faire de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et combien nous te prions, Seigneur, de nous attacher à toi, aujourd'hui et tous les jours, pour que nous marchions toujours en nouveauté de vie, revêtus d'humilité, revêtus de joie, et dans un service fidèle et constant, Seigneur, à ton égard, nous prions pour ta gloire et au nom de Christ. Amen. Alors, comme l'a dit Bernard aussi, je ne fais que citer ce matin. Hein. Eh bien, c'est vrai que même sur ces sujets qui sont très proches les uns des autres, il y a tellement de choses à dire qu'il nous faudrait une semaine, peut-être bientôt on fera une semaine, hein, de vérité dans l'amour. Hein. Et donc, un homme d'État américain a dit « Il n'y a pas de limite à ce qu'un homme peut faire » s'il ne s'inquiète pas de qui on aura la gloire ou de qui on aura la récompense. Hein. Et effectivement, dans le service du Seigneur, on est amené à faire des choses des fois agréables, des fois des choses très difficiles, et des fois on en reçoit la gloire, mais on doit la remettre au Seigneur, et des fois on reçoit rien du tout, à part des critiques ou des désagréments, hein, des problèmes. Justement, ça fait partie du service du Seigneur. Ça fait partie, et l'apôtre Paul a vécu exactement ça dans son service, dans sa vie apostolique. Alors ce verset semble totalement en contradiction, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, hein ». Est-ce que vous avez l'impression de triompher toujours ? Hein ? Mais c'est pas la bonne traduction. Désolé pour Monsieur Louis II, ça lui arrive de temps en temps. Hein. C'est qui nous amène toujours dans son triomphe. Hein. Et il n'est pas question de notre triomphe, il est question d'un triomphe romain que vous avez dans les films comme Ben-Hur et d'autres, où vous voyez le général qui revient de la victoire avec des gens qui sont derrière lui. Et il est question du parfum, parce qu'on jetait des parfums dans l'air pour vraiment avoir quelque chose de glorieux. Et nous, nous sommes derrière le char du général vainqueur, c'est-à-dire que nous sommes les esclaves qui ont été pris, vaincus sur le champ de bataille, et donc c'est pas nous qui triomphons, c'est Christ qui triomphe, et nous, nous sommes vaincus par Jésus-Christ, mais vaincus pas pour nous jeter au lion dans l'arène, hein, vaincus comme vous le trouvez dans l'histoire de Ben-Hur, pour nous libérer et nous donner une utilité dans la vie, vaincre notre ancienne nature, vaincre nos tendances mauvaises pour nous amener à un service humble et fidèle, joyeux du service au service de Jésus-Christ. Et donc, verset 15, nous sommes le parfum. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, hein, et effectivement parmi nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons amener une grande joie, une grande bénédiction, un grand réconfort, un grand soulagement, mais par contre à ceux qui sont perdus, eh bien des fois nous sommes une odeur de mort, hein, donnant la mort, et effectivement c'est que des gens, rien qu'en nous regardant ou en nous entendant parler, comprennent que nous sommes pasteurs ou comprennent que nous sommes chrétiens, et ils le vivent mal parce qu'ils se sentent comme si on leur faisait un reproche. On n'a rien dit, hein, pour l'instant, mais déjà, hein, ils se sentent reprochés par leur conscience, et ils savent bien, hein, comme la Jésus l'a dit, le Saint-Esprit convaincra les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ces gens sont déjà convaincus qu'ils vont passer au jugement, au tribunal de Dieu, mais ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas le savoir, et donc pour eux, c'est parfois une difficulté. Et justement, alors c'est dans la suite de ce que disait notre frère Samuel, effectivement, une part de notre humilité au service de Christ, c'est d'accepter l'opprobre de Christ et d'accepter l'opprobre de Christ de la part des détracteurs. Hein. Alors, nous sommes tous sous une pression et de plus en plus de nos jours pour vivre dans le courant dominant du politiquement correct. Hein. Et là, aujourd'hui, ce que nous disons est enregistré, mais dans quelques temps, et c'est déjà le cas dans certains pays d'Europe, si en parlant, vous avez le malheur de critiquer l'homosexualité ou de dire quelque chose sur l'islam ou autre chose, vous allez vous retrouver devant un tribunal. Hein. Et ça va nous arriver à nous aussi. Hein. Et donc, l'humilité, c'est d'accepter c'est aussi d'accepter de porter l'opprobre de Jésus-Christ. Avoir le courage de dire la vérité, même si ça pourra nous coûter. Hein. Et on pense à nos très chers frères et sœurs qui sont aujourd'hui encore en prison dans certains pays musulmans, Corée du Nord, Nord-Vietnam, etc. D'autres sont persécutés dans d'autres pays et souffrent beaucoup parce qu'ils ont l'humilité de dire la vérité. Hein. Et c'est vrai que moi-même, je préférerais être l'ami de tout le monde. Je préférerais ne vexer personne. Hein. Je préférerais que tout le monde soit content et tout le monde soit d'accord avec moi. Mais si j'étais comme ça, comme Samuel nous l'a cité, on va le relire ce verset en Galates 1:10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ah, on aimerait les deux, mais est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Hein. Et donc, bien souvent, enfin, nous sommes tentés de faire des choses pour plaire aux hommes, hein, pour plaire aux gens, pour nous faire bien voir. Mais si nous faisons cela, nous ne sommes plus serviteurs de Jésus-Christ. Hein. Et c'est quelque chose d'assez sérieux, d'assez grave, de ne pas être serviteur de Jésus-Christ parce que l'on a cherché à plaire aux hommes. Pensez à ceux qui nous ont précédés, Martin Luther par exemple, lorsqu'il était devant la diète de Worms. Il avait devant lui les autorités de l'Église catholique et Charles Quint, hein, l'autorité civile. Et ils lui ont tous dit, écoute, mon vieux, tu vas signer ce papier, hein. Enfin, ils ont dit poliment, mais c'est ça que ça voulait dire, hein. Et tu vas te rétracter, tu vas abandonner toutes tes idées fausses et tu vas rentrer dans le rang, tu vas faire comme tout le monde, hein. Et Luther a refusé, et il a dit, je ne peux ni ne veux me rétracter. Est-ce qu'il s'est fait des amis? Ben, pas parmi ces gens-là, hein. Mais grâce à Dieu, on avait déjà prévu de le faire mourir, mais il a pu s'échapper, hein. Mais aujourd'hui encore, son héritage demeure parce qu'il a eu le courage de dire la vérité, de déplaire aux hommes et de dire la vérité. Nous avons un prophète dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 18, un prophète qui s'appelle Michée. Alors, il a l'air très orgueilleux, ce monsieur, et c'est quelque chose d'incroyable. Le roi lui a envoyé des soldats, et on dit, voilà, tu vas venir voir le roi. Hein, il s'appelle Michée, c'est un prophète. Et voilà que les soldats lui ont dit, viens voir le roi. Et qu'est-ce que Michée a répondu? Si je suis serviteur de l'Éternel, si je suis prophète, que le feu descende sur vous et sur vos hommes. Hein. C'est quelque chose d'incroyable, hein, d'appeler le feu du ciel. Hein. Eh bien, c'est ce qui est arrivé ici, et c'est quelque chose de tout à fait terrible. Il faut avoir le courage de se tenir dans la vérité du Seigneur. Alors, il y a un accent ici sur la sincérité. Et nous tournons une autre page en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Et nous lisons. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, dans le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait glorieux, qui est cité aussi par Pierre. L'apôtre Paul nous parle ici du voile qui était placé sur le visage de Moïse. Hein. Alors, vous avez entendu parler de femmes voilées, hein. Mais pourquoi est-ce que Moïse se voilait le visage? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il avait été sur la montagne et qu'il a vu le reflet de la gloire de Dieu. Et quand il est redescendu, son visage brillait. Et alors, marchant dans le camp, les gens étaient là, ils sortaient tous le voir. Hein. Et lui ne voulait pas que les gens le regardent lui. Il voulait que les gens regardent au Seigneur. Hein. Et donc, il a mis un voile sur son visage. Mais nous, qui ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, eh bien, nous marchons à visage découvert. Et nous sommes, l'apôtre Paul dit, nous sommes transformés en la même image. Alors, ce mot transformé, vous l'avez en grec, et quel est ce mot? Vous connaissez ce mot en français, quel est ce mot en grec? Merci, voilà, hein. Métamorphoyo, hein. C'est ce que nous avons en français, la métamorphose, hein. Et ça fait référence directement, c'est le même mot qui est utilisé dans l'évangile de Matthieu, pour la transfiguration. Et le Seigneur nous dit que nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes des disciples transfigurés. C'est-à-dire que notre visage brille de la rencontre que nous avons faite avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous reflétons Jésus-Christ. Maintenant, vous allez me dire, et moi je vais vous poser la question, si hier, par exemple, vous avez regardé 4 heures de télévision, 5 heures d'ordinateur, et je ne sais quoi encore, hein, hein, et un quart d'heure de Bible, hein, comment votre visage reflète-t-il le Seigneur Jésus-Christ, hein, hein? Et c'est pour ça que des fois on va au culte et on trouve des chrétiens qui ont le visage de travers, qui sont tristes, qui se lamentent. Hein, pourquoi? Parce que ils n'ont pas contemplé cette semaine le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas passé le temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion avec le Seigneur. Et donc, si vous leur demandez, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi cette semaine? Il m'a gardé en vie. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Eh bien, c'est triste. C'est triste. Hein. Et donc, et d'après le proverbe, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Hein. Et le Seigneur veut que nous soyons brillants, reflétant la lumière et la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, il faut être avec lui, il faut le fréquenter, il faut le rencontrer, il faut le connaître. Et ainsi, donc, nous reflétons Jésus-Christ. Mais c'est vrai que des fois, par orgueil, nous voulons nous refléter nous-mêmes, hein, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, le téléphone que j'ai, la montre que j'ai, les chaussures que j'ai, hein. Et le but, hein, c'est pas de nous refléter nous-mêmes, c'est de refléter Jésus-Christ. Et ça demande une certaine humilité pour dire je vais me mettre en retrait, je ne vais pas mettre l'accent sur ce que l'on pense de moi, de quoi j'ai l'air, etc., mais je vais mettre l'accent sur la présence de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre dit aussi en 2 Pierre 1,16, nous lisons ça ici. Pierre était présent lors de la transfiguration, et il a dit ici, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » C'est-à-dire que Pierre n'a jamais oublié cette rencontre sur la montagne de la transfiguration, où il a vu le Seigneur glorifié. Et toute sa vie, il a parlé comme si le Seigneur était là devant lui. Hein. Il ne l'a pas oublié. Et c'est ce qu'il dit dans le verset suivant. Et nous avons, il a reçu de Dieu, verset 17, le Père, gloire et honneur, quand la gloire magnifique lui fit entendre la voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui. » Sur la sainte montagne. Et donc Pierre n'a jamais voulu se mettre en avant lui-même. Avant, il est bien connu pour celui qui voulait se mettre en avant. Hein. Mais ensuite, lorsque sa vie a été métamorphosée, hein, transformée par le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il parlait toujours ayant Jésus-Christ devant les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Et verset 19, la parole de Dieu. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que ce jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et là, Pierre, qui a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a vu transfiguré, qui n'a jamais oublié ce qu'il a vu, a toujours mis au premier plan la parole de Dieu. Hein. Et combien nous sommes affligés aujourd'hui d'entendre des gens nous dire « Voilà, j'ai une nouvelle révélation, j'ai un don de connaissance ou de discernement, le Seigneur me dit des choses sur vous, etc. » Alors que nous avons la révélation dans la parole de Dieu. Hein. Et que la Pierre qui a été apôtre de Jésus-Christ, qui a été envoyé pour à l'égard des Juifs, qui a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament, qui a vu Jésus-Christ glorifié, lui se permettait pas de faire ça. Alors comment ça se fait que ces personnes se permettent aujourd'hui de faire semblant de prétendre qu'ils sont des prophètes, des oints, des envoyés de Dieu, qu'ils ont une nouvelle révélation, qu'ils ont vu le Seigneur? Combien j'en ai rencontré dans ma vie qui ont vu le Seigneur, hein, bien ils ont peut-être vu le Seigneur, mais le Seigneur ne les a pas vus, je peux vous le dire, hein, parce que leur vie serait bien différente, hein, et ces gens-là s'égarent dans l'orgueil, hein, en 30 ans, on en voit des gens, ils s'égarent dans l'orgueil, ils se perdent parce que leur propre pensée remplace la parole de Dieu et remplace la pensée de Dieu. Et dès qu'on fait cela, on est en danger. Hein. Donc que le Seigneur nous aide à marcher dans l'humilité en étant transfiguré, métamorphosé par le Seigneur Jésus-Christ, les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hein. Ce verset, Hébreux 12, versets 1 à 4 a été cité à deux reprises récemment internationalement. Alors, c'est pas quelqu'un que j'admire dans tous les domaines, hein, mais qui c'est qui l'a entendu ce verset cité? Hein? C'était il y a 3 semaines, Obama. Eh ben oui, hein, lors de l'enterrement de ces gens qui sont morts lors de l'attentat du marathon, hein, voilà. Et il a dit continuons à courir la course, hein, ayant ayant les regards sur Jésus. Je ne sais pas s'il le fait, hein, mais il a dit, hein, nous tous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, où le chef est le consommateur de notre foi, et en échange de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragé. Alors ça me fait penser à un prophète qui a été découragé. Hein. Vous allez me dire qui c'est. Hein. Il a prêché contre Jézabel et les prophètes de Baal et il croyait qu'il était seul. Il savait pas qu'il y en avait quand même quelques autres. Et c'est qui ? Élie, hein, merci, voilà. Hein. Et donc... il a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur, mais il s'est lassé, l'âme découragée. Il a dit, je suis pas meilleur que mes pères, je veux mourir. Hein? Ça t'est pas déjà arrivé, Bernard? Ouais, voilà. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. Hein, quand vous nous voyez le dimanche matin, on est en forme, on a un beau costume, vous dites, celui-là, il est toujours en forme, ça va toujours bien. Hein? Eh bien non, hein, des fois il y a des moments où on est au creux de la vague, hein, et où on a des fois perdu les regards du Seigneur Jésus-Christ, et quand on se regarde nous-mêmes, hein, on n'a plus qu'à laisser tomber, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous ramène sur le droit chemin et nous permet de regarder nouveau au visage du Seigneur et continuer pour son service et pour sa gloire. Et merci donc du cantique qui a été chanté tout à l'heure, Jérémie. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du saint lieu. Hein, quatrième strophe, viens Jésus, sois mon maître, partons sans racheter, à toi seul je veux être et pour l'éternité. Hein, c'est ce que le Seigneur nous appelle, c'est de nous donner à lui corps et âme, mais corps et âme avec joie. Hein, vous êtes dans la joie ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Hein, et donc, c'est pour nous la joie de nous réjouir devant le Seigneur. Hein. Et on trouve, on n'a pas le temps de chercher tous les versets ce matin, mais dans 2 Chroniques 16, versets 7 à 10, David a chargé Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel tous les jours, de se réjouir tous les jours devant l'Éternel et de le louer et de l'exalter. Et nous aussi, en tant que chrétiens, hein, nous sommes appelés à nous réjouir en l'Éternel. Alors, si je vous demande tout à l'heure, hein, on va voir, je vais vous tendre le piège. Après le repas, vous aurez bien mangé tout ça, et je vais vous demander comment ça va. Oh, j'ai mal ici. J'ai le pied qui me démange. J'ai des problèmes de santé. Hein, mes voisins sont pas gentils, etc. Ou alors, vous allez vous réjouir dans le Seigneur et vous allez dire grâce à Dieu, merci Seigneur, je suis dans la joie. Hein, vous dites ça des fois? Vous dites? Bon, c'est bien, hein? La parole dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein? Et c'est vrai que on prend l'habitude à... que c'est celui qui se plaint le plus qui obtient le plus. Hein? Mais avec le Seigneur, ça marche pas. Hein? Avec le Seigneur, c'est celui qui se réjouit, hein? Qui obtient la bénédiction du Seigneur. Psaume 32, 4, le juste réjouissez-vous en l'Éternel. Hein, réjouissez-vous en l'Éternel. Et le Seigneur, en plus, nous donne les bons sujets de joie, hein, et ça, on le rencontre des fois de nos jours. Hein, Luc 10, 20, hein, nous lisons ici que, voilà, Jésus avait chassé un démon, et Jésus leur a dit cependant, non, c'est les disciples qui avaient chassé des démons, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et on a deux chers amis hein, qui chassent des démons à tort et à travers, hein, et qui tout le temps, « Oui, bravo, gloire à Dieu, oui, on a chassé les démons, oui, on a... » J'en ai eu qui sont venus comme ça au Pays Basque. Hein, alors, ils ont marché dans les rues, ils sont allés dans les villages, et ils priaient, ils chassaient les démons partout. Hein. Et en fin de compte, quel a été le résultat? Eh bien, c'est eux qui ont été chassés. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Parce que le Seigneur nous a pas envoyés pour faire les clowns, nous faire remarquer comme ça. Hein. Il nous a envoyés pour annoncer la parole de Dieu. Et ces gens, ils sont plus forts que tout le monde. Hein. Ils sont plus forts que Paul, ils sont plus forts que Pierre, ils sont plus forts que Jacques, plus forts que Jésus peut-être. Hein. Eh bien, oui, mais vous les placez face à la réalité, vous les mettez dans un pays où il y a de l'occultisme, un pays où il y a de la sorcellerie, un pays où les gens sont attachés à des traditions de perdition. Eh bien, zéro, il se passe rien du tout, ils n'ont pas amené une seule âme au Seigneur, vous vous rendez compte, hein? Eh bien oui, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pas une seule de ces personnes ne sont encore là-bas, et n'ont fondé d'église d'ailleurs, c'est pas possible, le Seigneur n'approuve pas ces méthodes. Hein. Au contraire, Pierre nous donne un autre sujet de réjouissance, 1 Pierre 4, 13. Alors là, je ne sais pas si vous allez vous réjouir de celui-là. Hein. 1 Pierre 4, 13, vous me direz après. Hein. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Hein. Ça vous plaît? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Hein. Et je pense à nos très chers frères et sœurs, je l'ai déjà dit, mais qui sont persécutés dans le monde, eh bien, au travers et au sein de leur persécution, ils reçoivent une joie immense de la part du Seigneur, un encouragement, une force morale et spirituelle dans ces épreuves. Et nous, des fois, on dit, Seigneur, merci de ce que nous ne sommes pas persécutés. Mais des fois, hein, bon, on va pas faire exprès de se faire persécuter, mais des fois, le Seigneur... on pourrait lui demander d'avoir un peu plus de persécution, hein, ça nous ferait des fois du bien hein, de nous attacher plus fortement au Seigneur. Hein. Et sujet de joie, on l'a vu tout à l'heure, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et j'étais amené récemment à faire les paraboles de Jean, non pas de Jean, de Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, les paraboles des choses perdues et retrouvées. Hein. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils, ça c'est pas une chose, mais le fils prodigue ou le fils perdu. Hein. Et chaque fois dans ce chapitre, on lit que lorsqu'ils ont été retrouvés, cela a été une grande joie. Et il y a trois caractéristiques de chacune de ces trois paraboles, la brebis, la drachme et le fils. La première, c'est la tragédie absolue de la perte. La tragédie absolue de la perte. Hein. Et aujourd'hui, nous oublions en tant que chrétiens parfois hein, la tragédie de la perdition des gens qui nous entourent. Hein. Des fois, on est distrait ou préoccupé et on oublie hein, cette tragédie. Dieu ne l'oublie pas. Hein. Il a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous sauver. Il a versé son sang et l'Esprit de Dieu aujourd'hui agit dans le monde pour sauver les hommes, hein, c'est son but. Deuxièmement, dans ces paraboles, à chaque fois, on trouve la nécessité absolue de chercher, hein, et même dans d'autres paraboles. Mais la brebis perdue, vous vous rendez compte, en pleine nuit, hein, vous avez qu'à essayer dans les montagnes, hein, en pleine nuit, vous allez chercher une brebis, hein. Voyez le danger, voyez que vous pouvez tomber dans un ravin, un précipice, vous pouvez vous attraper dans les ronces. Mais c'était pour ce berger une nécessité absolue de retrouver cette brebis perdue. La drachme perdue, cette femme a allumé une lumière et balayé toute sa maison, hein, et jusqu'à ce qu'elle retrouve cette brebis. Et le fils perdu, eh bien, le père allait tous les jours regarder, enfin c'est ce qu'on imagine, hein, c'est pas écrit, hein, mais on imagine qu'il allait tous les jours regarder pour voir le retour de son fils, puisque dès qu'il est arrivé, le père a couru à sa rencontre. C'est qu'il l'attendait, il était là, hein. Eh bien, oui, une nécessité de chercher. Est-ce que aujourd'hui vous cherchez les âmes perdues? Et puis troisièmement, et c'est le sujet évidemment aujourd'hui, la joie de trouver, hein, verset 7. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. La dame dit, non, c'est Jésus qui le dit encore. Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Hein. Est-ce que vous avez déjà été dans un stade de foot, hein, ou si vous habitez dans le sud, un stade de rugby ou quelque chose, hein, et que voilà, votre équipe marque un but? Qu'est-ce qui se passe, hein? Tout le monde se lève et allez l'OM, ou je sais pas, ici c'est quoi, c'est Paris, vous aimez Paris, vous?
PSG,
oui, bon, allez, hein, nous pas trop, hein, bon. Et donc, quoi qu'il en soit, voilà, allez, en avant, hein. Eh bien, dans le ciel, hein, c'est comme dans un match de foot, hein, et quand une âme se tourne vers le Seigneur, ça peut être à Limay, ça peut être à Tizi Ouzou, ça peut être à Pékin, hein, eh bien, les anges se lèvent et glorifient le Seigneur. Merci Seigneur, une âme de plus est rentrée dans le ciel, est rentrée dans le salut, parce que le salut est quelque chose d'éternel. Hein, et nous avons nos grands hommes d'État qui nous ont précédés, qui ont tous essayé de faire des choses éternelles. Hein. Mitterrand a fait sa grande bibliothèque et tout un tas de choses pour qu'on parle de lui. Louis XIV nous a laissé Versailles, etc. Hein. Alors tous ces gens veulent qu'on se rappelle, mais un jour tout ça sera détruit, il n'en restera plus rien. Hein. Et alors que une seule âme sauvée, si vous avez amené au Seigneur une seule âme, cette personne est sauvée pour l'éternité, et même le diable et tous ses démons ne peuvent pas désauver, hein, ça n'existe pas, mais désauver cette personne, c'est pas possible, hein. Et donc ça, c'est un grand sujet de joie. Et le père, hein, du fils prodigue a dit, verset 24, ton fils que voici était mort, mon fils que voici était mort, est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Hein. C'est la plus grande occupation que vous pouvez avoir dans votre vie, hein, c'est pas de gagner les élections et de devenir président de la République, c'est de gagner une seule âme. Ça a beaucoup plus de valeur parce que ça a une valeur éternelle. Hein. Rien de ce qui est sur cette terre, vous ne le retrouverez au ciel. La seule chose, c'est la parole de Dieu et les personnes auxquelles vous aurez annoncé l'Évangile et qui se sont tournées vers le Seigneur. Alors ça, c'est une joie véritable. Hein. Et puis, il y a aussi, alors on revient à Corinthiens, toujours 2 Corinthiens, le survol de cet épître de l'esprit du ministère apostolique. Eh bien, en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, nous lisons que... j'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Hein, parce qu'il y avait eu, c'est vrai, de la tristesse, parce qu'il y avait un désaccord, un conflit entre Paul et les Corinthiens, Les Corinthiens se sont repentis et c'est la joie qui a repris le dessus. Hein, et ça, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux, rempli de consolation et de joie. Hein. Verset 7, nous lisons, non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Hein. Et donc, pour la conclusion de l'Épître, chapitre 13, verset 13, nous lisons ce commandement très simple, facile à se rappeler, 1 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, 2 Corinthiens 13, 13, pardon, soit avec vous tous. Et donc, et puis verset 11, voilà, c'est celui-là que je voulais vous lire. Au reste, frères, soyez dans la joie. Hein. Au reste, frères, soyez dans la joie. Vous êtes dans la joie ce matin ? Amen. Hein. Et donc, j'ai quelque chose à vous montrer en conclusion. C'est une jeune femme qui m'a fait ça, et c'est un tout petit, hein, tout petit. Qu'est-ce qui est écrit ? Ce que Dieu, mon maître, veut faire de ma vie, qu'est-ce qui est écrit après ? C'est vide, et en bas, la signature. Alors j'ai trouvé que c'était une... Je l'ai gardé dans ma Bible depuis, ça doit faire 10 ans, et cette sœur, eh bien, elle sert toujours le Seigneur. Et elle a donné au Seigneur, on pourrait dire, un chèque en blanc. Hein. Elle a donné au Seigneur un contrat en blanc. Elle a dit, Seigneur, je signe, ce que tu veux faire de ma vie, je le ferai. Hein. Est-ce qu'on sait à l'avance ce que le Seigneur va faire de notre vie ? Non, on ne le sait pas. Hein. On a des rêves, des imaginations, etc. Nous ne savons pas ce que Dieu veut faire de notre vie, mais le Seigneur nous appelle à signer un contrat de travail d'humble et joyeux service pour lui. Et c'est un contrat qui est en blanc pour nous, pas pour Dieu. Lui, il sait très bien ce qu'il y a dedans, mais nous ne le savons pas. Et c'est par confiance, c'est par foi que nous signons ce contrat. Alors, qui est-ce qui est prêt à signer ce contrat ce matin ? Hein ? Qui est-ce qui est prêt à signer le contrat du Seigneur et à dire, Seigneur, je veux me mettre à ton service aujourd'hui. Vous savez que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, les paroles d'Ésaïe, chapitre 6, sont toujours valables. L'appel est toujours là. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Et aujourd'hui encore, la question se pose. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Peut-être quelqu'un ? Un homme, une femme, quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune ce matin est appelé au service du Seigneur. Vous le savez peut-être, mais vous n'avez pas encore signé le contrat. Seigneur vous appelle à le signer, à vous approcher de lui. Peut-être à venir ici, à l'Institut, pour étudier sa parole. Peut-être à le servir dans votre église locale. Peut-être à consacrer du temps pour lui tous les jours dans la prière et l'obéissance, le témoignage pour vraiment se mettre joyeusement au service du Seigneur. C'est le contrat que le Seigneur vous demande de signer ce matin. Nous allons prier. Seigneur éternel,